Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau faite aujourd'hui par l'ami Pierre Hiverna de la plateforme des goûts alimentation générale dont on est partenaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Alors de quoi va-t-il s'agir dans cette cerise aujourd'hui?
Eh bien il va s'agir de patrimoine culinaire.
À tout à l'heure, 12h25. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Qui donc nous raconte sa madeleine?
Bien, cette semaine, j'ai rencontré l'écrivain Daniel Pénac qui a fait rimer madeleine avec grosse flemme.
Tout à l'heure, 12h15. Et vous le savez sûrement, Pierre et Matteo, la cuisine est partout, elle a la cote. Les chefs sont les nouvelles rockstars, on ne compte plus les couvertures de magazines sur les cuisiniers, comme le magazine Du Monde, fin décembre, sur la folie Yota Motolenghi, du nom de ce chef anglo-israélien, dont les livres sont des best-sellers, ou encore la une du magazine Society, le mois dernier, intitulée « La grande bouffe ». Seulement voilà, à l'heure des recommandations pour bien manger, préserver sa santé tout en faisant attention à la planète, pour le dire rapidement, acheter ces aliments et les consommer vire parfois au casse-tête. Manger sain et bio est-il devenu une injonction contemporaine? Sommes-nous encore libres de nous nourrir comme bon nous plaît? C'est le sujet de notre plat du jour.
Ce soir, vous avez prévu de manger ça. Bon, c'est moins léger que ça. Alors, pour mieux manger, commencez simplement par remplacer les pâtes par des pâtes complètes, plus riches en fibres.
Pour ta santé, évite de grignoter entre les repas.
Pour mieux manger, commencez simplement par manger des légumes secs, plus riches en fibres, un peu plus souvent.
Pour bien grandir,
ne mange pas trop gras, trop sucré,
trop salé.
L'idéal, vous savez, ce serait de manger ça. Mais bon, ça finirait comme ça.
Non merci, ça va aller.
Petit florilège réalisé par Jean-Christophe Francis, notre réalisateur. J'accueille ainsi en fanfare nos deux invités du jour. Éric Birlouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'alimentation et de l'agriculture, mais oui. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'après, c'est-à-dire l'alimentation. Et Alexandre Camas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous également. Vous êtes cofondateur et directeur du guide Le Fooding. Le guide, je mets entre guillemets parce que c'est le sous-titre, le guide qui paie ses additions et qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine. Le dernier magazine est sorti à la fin de l'année dernière, et il avait pour titre, il a toujours pour titre, parce qu'on peut toujours le trouver, 2020 année anti-fooding, point d'interrogation. Juste avant de parler de l'anti-fooding, ce qui sera sans doute le cas après la madeleine par Matteo Caranta tout à l'heure, un petit rappel rapide d'Alexandre Camas de ce qu'est le fooding.
Eh bien, c'est un guide, ce sont des événements, et c'est un guide qui est animé, on espère, par un appétit un petit peu différent des autres guides, ce qui nous permet de trouver un public, des lecteurs. Et donc, en fait, en gros, on a toujours eu l'habitude de mélanger les torchons et les serviettes, c'est-à-dire à la fois les grandes tables et également la street food. À une époque, parce qu'on a 20 ans, bientôt. Enfin, on a 20 ans, d'ailleurs, là, on est en 2020, j'ai du mal à le dire, mais c'est la vérité. Et en fait, personne ne faisait ça avant, et on s'est dit qu'il y avait du bon dans la street food, et du bon dans les grandes tables, et du bon, évidemment, dans les tables intermédiaires, les bistrots et tout ça. Et c'est l'idée, c'est d'aller chercher vraiment le bon partout où il est, sans souci de classe, d'une certaine façon.
Et vous dites également, Alexandre Camas, que vous vous êtes construit avec le fooding contre les normes. C'était lesquels au moment de la création?
Il y a plein de choses, parce que même le sujet dit énormément. Nous, quand on s'est construit, en fait, au départ, le problème, c'était pas tant de manger sain et manger équilibré. C'est vraiment une nouvelle problématique qui est vraiment ultra contemporaine. Ce qui était important, c'était de manger justement de manière détendue, de pouvoir aimer un peu tout ce qu'on voulait et pas subir l'espèce d'ordre, grand ordre du bon goût général ou national avec des cuisines supérieures, des cuisines inférieures, des sous-cuisines, etc. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de zapper, de passer d'un kebab, pourquoi pas, à un relais château si vous en avez les moyens, sans complexe, et savoir faire la distinction d'un bon, entre un bon et un mauvais relais château, parce que je dis pas qu'il y a des mauvais relais châteaux, mais il y a de très mauvais grands restaurants. Et par contre, trouver aussi les très bons petits restaurants. Et c'était vraiment l'ambition. Aujourd'hui, évidemment, la bouffe, la nourriture, l'alimentation, la gastronomie, tout ça, c'est des enjeux qui dépassent complètement juste le simple plaisir, la question du plaisir, parce qu'on sait que ça a un impact énorme sur la société, sur l'économie, l'économie, sur le vivre ensemble, sur l'environnement, sur des tas de choses. Je pense que Eric va avoir des choses à dire là-dessus.
Et c'est précisément sur ça qu'on va l'interroger, en effet. Eric Vialloué, à vous. Donc, non, mais cette impression déjà que la cuisine est partout, que les chefs sont des rockstars, et ensuite que on nous ordonne de manger comme ci ou de manger comme ça, c'est une impression fondée, c'est une réalité même.
Ah ben, c'est une réalité, mais en même temps, je rappelle toujours que c'est pas nouveau qu'il y a des injonctions ou des recommandations. Depuis l'Antiquité, en fait, le fameux Hippocrate, qui était le père de la médecine occidentale, était un obsédé des régimes alimentaires, parce qu'il avait bien compris que quand les gens sont malades, on a du mal à les guérir, à les soigner, et qu'il vaut mieux prévenir. Et pour lui, la première des préventions, ça passait par l'alimentation. Donc, en soi, c'est pas nouveau. Maintenant, c'est vrai que depuis, grosso modo, 20 ans d'ailleurs, le premier plan national nutrition santé, c'est 2001, donc juste après le lancement de Fooding.
Le fameux manger 5 fruits et légumes par jour.
Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors c'est quelque chose que tout le monde sait, plus de 95% des Français le savent. Quand on se demande est-ce que c'est efficace ce type d'injonction, ma réponse c'est de dire oui, c'est efficace pour apporter des connaissances aux Français. Mais pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que pour la santé, c'est bon de manger des fruits et des légumes en quantité. En revanche, une enquête du Crédoc en 2016 montrait que seulement 25% des adultes et 6% des enfants et adolescents, les 3-17 ans, respectaient cette recommandation. Donc on est loin du compte. Et à un moment, on peut se demander, est-ce que ces injonctions ne sont pas finalement non seulement inefficaces, mais parfois peut-être contre-productives d'une certaine manière.
Ça a du bon quand même, parce que je lisais une étude parue en octobre et en novembre dernier de l'Observatoire CTLM, qui montrait que les Français, avec ces recommandations, on va d'ailleurs peut-être distinguer les conseils, les recommandations des injonctions, hein, mais que donc selon ces recommandations, les Français ont davantage l'impression d'être acteurs de leur propre consommation et d'agir sur l'amélioration globale de la production alimentaire, Eric Vialloué.
Oui, alors ça c'est un vrai changement qui date seulement depuis quelques années, l'envie de reprendre le contrôle, de reprendre en main son alimentation. Un peu tout s'est passé comme si les Français avaient pendant longtemps délégué le soin de les nourrir à l'industrie agroalimentaire, à la production agricole, à la grande distribution. Et tout d'un coup, ils prennent conscience qu'ils ont donné les clés du camion à peut-être des acteurs qui n'ont pas toujours bien respecté les règles du code de la route. Et donc, du coup, ils veulent reprendre la maîtrise. Et donc ça, c'est très positif. En fait, il y a deux phénomènes. Il y a la montée des inquiétudes vis-à-vis de l'alimentation, qu'on peut discuter, certaines sont justifiées, d'autres ne le sont sans doute pas, mais bon, la peur fait vendre, donc il y a cette montée des inquiétudes, mais en même temps, beaucoup plus positivement, cette envie de reprendre le contrôle et d'être, comme vous le dites, consommateur.
C'est plutôt un problème, plutôt quelque chose de positif. Comment le voyez-vous, Alexandre Cama?
En fait, moi j'ai toujours eu un fond de gentil rebelle. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais très envie de faire des tags, j'osais pas les faire sur les murs, mais ça m'empêchait pas d'en faire sur mon cahier ou sur les tables de l'école. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les injonctions, qui n'aiment pas les ordres, qui n'ont pas envie de les subir. Ça, pour autant, ils vont pas forcément justement sortir et manifester, mais peut-être juste ils vont les snober. Et je me souviens de quelqu'un de très important à Radio France qui s'appelait Jean-Pierre Coff. Souvent, son expression, c'était de dire « c'est de la merde ». Et moi, j'étais assez jeune à cette époque-là, et je comprenais pas, en fait, l'intérêt de dire ça. Parce qu'en fait, dire de quelque chose que c'est de la merde, si vous l'aimez, cette chose-là, ça veut dire qu'en gros, si vous êtes jeune, relativement en construction, encore au niveau de vos goûts, vous allez vous dire « bah en fait, la bonne bouffe, c'est pas mon truc, je comprends pas, je la comprends pas ». Donc, effectivement, faut vraiment faire tout ça avec des pincettes. L'injonction, je pense que c'est un vrai problème. Je pense aussi que les messages santé sont sûrement très utiles, en tout cas peut-être pour les 25% de gens, mais il y a une hypocrisie crasse aussi, c'est-à-dire que en fait, ben, vous êtes en train de vous prendre un message sur le fait de manger des fruits et légumes sur une pub qui n'a rien à voir. C'est pareil sur les paquets de cigarettes, on vend des clopes, l'État prend de l'argent et en même temps on vous envoie des messages. Donc en fait, il y a aussi le fait qu'on ne sait plus très bien ce qui est vrai, ce qui est sincère, ce qui ne l'est pas. Puis peut-être aujourd'hui encore plus qu'hier, puisqu'aujourd'hui on est vraiment perdu quand on voit que même les dirigeants font et disent à peu près tout et son contraire.
Et puis, Eric Vialloué, il y a une chose importante dans les tendances ou les effets de mode, c'est qu'elles passent. Alors, les injonctions en termes de santé, c'est une chose. Au moment où on en parle, et peut-être depuis 20 ans, elles n'ont pas tellement évolué. Enfin, il y a 50 ans, on disait qu'il fallait manger des pâtes. Et puis aujourd'hui, il faut surtout pas parce que c'est trop gras. On a une mode du sans gluten, du sans graisse, du sans sucre. Ça peut peut-être passer. Donc, C'est vrai que comment s'y retrouver en dehors de l'effet contre-productif dont vous parliez tout à l'heure?
Exactement. Alors ça, c'est justement quelque chose qui n'apaise pas les angoisses, mais qu'au contraire les amplifie. C'est ce caractère changeant et contradictoire. On me dit de manger des fruits et des légumes. Oui, mais ce matin, dans le journal, on m'a parlé des pesticides dans les fruits et légumes. On dit de manger du poisson, c'est bon pour la santé. Mais en même temps, on me dit, c'est l'ANSES qui dit ça, pas plus de 2 fois par semaine, parce qu'il y a des contaminations par les métaux lourds, etc., etc. Donc, c'est vrai que les consommateurs, ils sont perdus, d'où leur envie de reprendre le contrôle sur leur alimentation. Alors certaines fois, évidemment, ce besoin de reprendre le contrôle, il peut se traduire par un peu des extrémismes. On peut aller très loin dans certains régimes alimentaires qui, finalement, sont quand même éloignés du bon sens et de la bonne santé. Mais il y a quand même cette inquiétude qui naît de ces injonctions contradictoires et changeantes.
Alexandre,
ils peuvent même nous déshumaniser. C'est-à-dire qu'il y a des régimes qui sont... je crois que vous aviez fait un livre sur le lait en disant que c'était le premier aliment, c'est ça? J'ai lu ça?
Oui, il y a bien longtemps. Oui.
Et en fait, effectivement, moi par exemple, je mange beaucoup moins de viande qu'avant et je suis content de manger encore de la très bonne viande. Et ce que j'aimerais, c'est que la très très bonne viande soit très très bien traitée et qu'on en mange beaucoup moins. Et demain, subitement décider que plus personne n'aurait le droit, enfin une espèce de pape du bon goût qui nous dirait non, il ne faut plus manger de viande. Bon, les papes, de toute façon, ne sont pas toujours très suivis, mais peu importe. En tout cas, s'il y avait cette volonté, cette autorité-là, ben, ça changerait complètement le rapport de l'homme par rapport à l'élevage, ce qu'il a fait homme. On pourrait aussi un jour nous interdire le feu, parce que pour l'empreinte carbone, et quand même, le feu, c'est constituant de ce qu'on est aussi. Donc en fait, il faut quand même vraiment faire attention un peu. Et moi, dans tout ça, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'espace de liberté qui nous reste pour pouvoir encore s'amuser, prendre du plaisir et se sentir humain.
Oui, et en ne niant pas, d'ailleurs.
Le problème, c'est effectivement l'oubli de la notion de plaisir dans ces injonctions.
Mais exactement, la notion de plaisir, et je dirais simplement ce fait biologique incontestable que nous sommes des omnivores, c'est-à-dire l'extrémisme alimentaire ne nous convient pas. Nous devons manger de tout raisonnablement, et tout à fait d'accord avec l'idée de dire il faut bien évidemment diminuer dans nos pays la consommation de viande, ne pas l'interdire, ce qui serait, ou la supprimer, pour moi un non-sens total et même complètement contre-productif. Mais évidemment, il faut aller vers une viande de meilleure qualité, respectueuse de l'environnement, de l'animal, et qui permet aux producteurs de gagner leur vie. On est dans l'équilibre et non pas dans l'extrémisme.
Bon, cela dit, on est encore des Français et l'étude CTLM que je citais tout à l'heure confirme que le plaisir reste le premier critère pour le choix de son alimentation. Après, il y a aussi d'autres effets qui sont peut-être des effets pervers, hein, de ces ordres, contre-ordres ou autres injonctions. Peut-être le développement de ce qu'on appelle des tribus alimentaires ou d'une forme d'individualisation de l'alimentation. Oui. Moi, je mange comme ça et pas comme ci, donc on peut plus manger ensemble. Et puis peut-être la culpabilisation du consommateur, parce que quand on ne mange pas comme on nous le préconise, eh bien, bah, forcément, on culpabilise un peu. Donc, ça renforce d'ailleurs l'individualisation, oui, parce qu'on mange dans son coin. Éric Birloué.
Oui, bah, c'est tout à fait ça. Alors, il y a à la fois ce que l'on observe depuis quelques années, un éclatement des styles d'alimentation. Vous avez les végétariens et les véganes, vous avez les crudivores, les respirianistes, les 100% bio, les adeptes de la diète préhistorique, etc., etc. Donc il y a à la fois le besoin de se rassurer en ayant ces régimes particuliers. Il y a aussi un peu de distinction sociale, c'est-à-dire moi je sais comment il faut manger, sous-entendu les autres, eux, ils savent rien. Et donc ce que disait Alexandre tout à l'heure, j'étais sensible. On est, c'est vrai, aujourd'hui dans une société qui a un peu tendance à cliver les choses, à être très binaire, à dire d'un côté il y a le pur, il y a le sain, il y a le vertueux, alors qu'on peut appeler local ou bio ou n'importe quoi, puis tout le reste, ça ne vaut rien. Bien sûr que non. Et il y a ce que vous disiez, la culpabilisation, c'est-à-dire que des gens, on voit même, et là c'est vraiment incroyable, des personnes qui, ne pouvant pas acheter de fruits et des légumes bio, ont renoncé aux fruits et légumes à cause de la crainte qu'on leur a insufflée de la présence de pesticides.
Alexandre Kama, vous avez l'impression qu'on en fait vraiment trop, qu'on peut plus rien manger, que c'est un véritable casse-tête, ou là, bon, quand même, on accentue le trait pour les besoins de cette émission?
Non, moi, je pense, en fait, je pourrais tout dire et son contraire, parce que la vérité, c'est qu'effectivement, on en fait trop, et en même temps, on n'en fait pas tout le temps assez aussi, ça dépend. Si je m'adresse juste à mon public qui est... pardon de le dire, mais effectivement un public urbain qui a plutôt de l'argent à dépenser, qu'on peut qualifier de bobo, etc. Ils ont aussi effectivement tendance à penser que eux et moi le premier, on sait manger, que d'autres ne savent pas. Par exemple, il y a des réunions de rédaction où vous pouvez entendre au sein du fooding, mais pas qu'au fooding, ou même parfois à table pour des gens qui se pensent gastronomes, en culotte longue, ils vont dire « mais tu sais pas manger ». Et c'est insupportable en fait, parce que moi j'ai créé le fooding exprès pour dire aux vieux critiques gastronomiques de l'époque qui me disaient « vous savez pas manger » ou à Jean-Pierre Coff qui disait « ce que t'aimes, c'est de la merde », dire « bah non, en fait, j'ai ma place aussi, je peux dire aussi ce que je pense et ce que j'aime ». Donc en fait, ce qui est toujours un peu chiant, pardon pour le mot, mais c'est de se dire que au départ, on est pour une forme d'individualisation du régime, mais très vite, les individus un peu géniaux, qui sont un peu prescripteurs, il y a des chefs comme ça qui lancent des tendances, il y a beaucoup de gens qui commencent à leur ressembler, à les copier, c'est un peu déraciné, d'ailleurs, souvent ils le font un peu comme des gimmicks, et puis à la fin, ça fait des sectes, et la secte, elle est plus forte que l'individu, et donc, en fait, ça pose vraiment des questions, et
d'où
l'anti-fooding,
parce et que dont on va parler juste après la Madeleine.
Parfois, on a envie d'aller chez le coiffeur et de changer de coupe de cheveux, quitte à revenir à l'ancienne avant.
Les fruits et légumes frais.
Tu crées, tu croques, tu craques.
Matteo Caranta, alors cette Madeleine de l'écrivain Daniel Pénac.
Oui, l'inné, l'arable, auteur du Bonheur des Ogres, de Comme un roman ou de la fée Carabine, publie La loi du rêveur chez Gallimard, une autofiction où il oscille entre ses souvenirs d'enfance et la description presque sensorielle de ses rêves. Et le roman commence la nuit où, à 10 ans, il est devenu écrivain. Et bien pour sa Madeleine, il a aussi choisi un jour de son enfance, le jour hebdomadaire où sa mère n'avait pas envie de faire la cuisine.
Ma Madeleine, c'est le souvenir de la journée hebdomadaire où ma mère avait la flemme de faire la cuisine. Et le jour où elle ne cuisinait pas, elle nous faisait ce que les quatre garçons et elle appelaient un miam-miam. C'était une espèce de mélange de lait condensé, de flocons d'avoine, de lait caillé, de fruits secs, d'une pomme coupée en morceaux de banane mélangés, fesses, et qu'elle nous servait à la louche. C'était pas d'un raffinement exquis, mais je trouvais ça absolument délicieux. Et j'attendais ce jour de flemme maternelle. On allait manger le miam-miam. C'était assez composite. Il y avait le lait caillé que nous faisions cailler nous-mêmes en le mettant sur la fenêtre, etc. Plus le sucre donné par le lait condensé. On sortait de la guerre, hein. Le lait condensé c'était vachement important. Et alors, le délice c'était tombé dans ce truc un peu inconsistant et sucré. Sur du craquant ou sur de l'explosif immédiatement fondant, un raisin sec par exemple, ou le craquant d'une noix ou d'une noisette qu'on avait pilée, on faisait tout ça nous-mêmes, ou l'autre type de craquant exquis, ça je ne l'oublie jamais, chaque fois que je croque dans une pomme, la juste texture de la pomme, faut pas qu'elle soit blette bien sûr, faut pas... Il y a un son aussi. Voilà, c'est tout ça. Ça me rappelle tout ça. C'est un opéra, oui.
Et quand vous mangez aujourd'hui du miam-miam, quelles sont les images, les premières images qui vous viennent ?
C'est un violent moment de régression. Mais je le garde pour moi parce que j'ai ma dignité quand même.
Voilà, la Madeleine de Daniel Pénac qui ne va pas nécessairement avec les injonctions contemporaines, Alexandre Camin. On peut avoir un violent moment de régression et se régaler avec un espèce de gloubi-boulga qu'il appelle lui le miam-miam.
Ah mais ça c'est sûr. Ouais. Moi-même, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai...
Mais non, faut pas, justement.
Très longtemps, il y avait une bouillie que me faisait ma maman qui n'était pas aussi faite maison que celle de Monsieur Pénac. Mais qui était, je crois que ça s'appelait Blédina, un truc comme ça, biscuité. Et en fait, elle était déjà lactée, donc c'était un peu horrible, comme avec du régilet. Mais en fait, en mettant du lait, on obtenait un truc très régressif et assez biscuité. Et je pense que j'ai dû en m'en faire occasionnellement, en tout cas, jusqu'à peut-être l'âge de 20-25 ans. Je pense même que j'étais contente d'en refaire à mes enfants, à un moment donné, et de le partager avec eux. Je crois que c'est assez dégueulasse.
C'est quoi votre plat dégueulasse que vous aimez beaucoup, vous, Eric Biardouet?
C'est un plat identitaire de mon terroir d'origine, le nord de la France. Donc j'aime beaucoup mon pifraix de frites. Mais évidemment, je le fais pas à la maison. Je le fais en cachette. Évidemment, quand je vais manger au restaurant, je commande des frites. Mais ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est, on le voit bien que l'alimentation, il y a la dimension plaisir dont on parlait et le lien social qui est extrêmement important. C'est-à-dire que les tribus alimentaires ou les sectes dont vous parliez, c'est pour moi la négation de l'alimentation dont l'un des trois buts, c'est réunir. On dit l'alimentation, c'est nourrir, réjouir, le plaisir et réunir. Et là, parfois, on est en train de perdre ce qui fait vraiment le socle de notre modèle alimentaire français, ce plaisir de la commensalité, de la convivialité, d'être ensemble autour de la table et de partager les mêmes plats, très simplement.
On va venir à l'anti-fooding, mais ce qui me surprend, c'est que depuis le début de cette émission, aucun de vous deux n'a abordé la question environnementale. Parce que si la santé, manger sainement, manger bio, c'est avant tout justement une injonction, on va dire qu'il y a à peu près 20 ans, même si manger sain, ça remonte à très très longtemps, vous nous le disiez Eric Birlouet, la préoccupation, disons, environnementale, elle est encore plus récente.
Beaucoup plus.
Et elle prend beaucoup, beaucoup de place.
Exactement, beaucoup plus récente, elle prend beaucoup de place. Et alors là, du coup, là encore, on est dans des choses un petit peu contradictoires et on a du mal à s'y retrouver. Mais effectivement, c'est quand même une prise de conscience qui est importante. Il faut pas rêver. Les gens, à mon avis, ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain leur alimentation. Les habitudes, c'est quelque chose qui est très tenace, d'autant plus qu'on les a depuis la petite enfance. C'est précisément le cas des habitudes alimentaires. Donc il faut accompagner les mangeurs dans la transition et certainement pas à coup d'injonction.
Mais là, sur la dimension environnementale, pour être honnête, je pense que le guide fooding est probablement le guide le plus environnementaliste qui soit. Même si on le fait pas vraiment exprès, le vin nature, qui est un vin plus propre que d'autres, ben le guide fooding, sans le dire, on est devenu quasiment le guide officiel. On a été les premiers à mettre en avant sur des milliers de chroniques pendant des années des choix de vins qui étaient des vins plutôt propres, travaillés sans chimie, etc. Sur les chefs qu'on aime, et de toute manière, à partir du moment où, entre guillemets, on sait manger, ce que je voulais vous dire, c'est que les bons produits, on les reconnaît, bio, pas bio, tout ça, mais en général, ils ont une histoire relativement courte, c'est-à-dire qu'ils viennent pas de super loin, et de fait, on se retrouve avec des restaurants qui sont de plus en plus locavoristes ou locavores, je sais plus très bien comment, enfin locavoristes, je pense, et qui travaillent en circuit court. Alors, il y a effectivement encore des contradictions, il y a parfois des paradoxes, mais en réalité, nous, ce qu'on voit vraiment pour faire la France rayonner en France toute l'année, on voit que ça bouge et que ça bouge énormément. Il y a même parfois, c'est le cas par exemple aux Pays Basques, des gens qui ne sont pas basques, qui ont ouvert des restaurants et qui recréent carrément des filières. C'est-à-dire qu'ils retrouvent un vieux maïs ou un truc qui poussait mais qui a été complètement oublié. Ils le replantent, ils le recuisinent, etc. Et tout. Donc en fait, c'est vraiment naturellement dans le guide fooding, une préoccupation de tous les chefs qu'on met en avant.
Alors en 2020, on met les pieds dans quel plat, Alexandre Camard ? Qu'est-ce que c'est que cette année anti-fooding ?
Ben, en fait, c'était un petit peu une blague, mais c'est vrai que comme à un moment donné, on finit peut-être, on a peur de ressembler à la caricature qu'on veut bien faire de nous. Et le piège, c'est vrai que quand vous voyez tous ces gens, c'est un peu comme dans les concerts de rock, c'est pareil en cuisine, ils attendent que le plat refroidisse pour faire une belle photo. Avant de le manger, ils font une belle photo, le plat refroidit, ils le mangent froid. En concert, vous allez voir un concert, d'ailleurs pas que de rock, mais peu importe. Les gens regardent le concert en live à travers un écran qui est plus petit que leur télévision ou que leur ordinateur. Donc il y a des tas de choses qui sont un peu ridicules dans les phénomènes de mode. Et on a voulu un petit peu s'en éloigner, on y allait de manière très radicale et un peu provocatrice, et de toute façon aussi avec beaucoup d'ironie, et beaucoup d'autodérision, en se disant en fait, de temps en temps aussi, on aime aller dans des restaurants qui sont tout sauf mode, sauf tendance.
Où on trouve du miam miam à la Daniel Pénat.
Et voilà, et parfois
les frites, par exemple, d'Eric Birlouet.
Et qui peuvent être parmi nos adresses préférées, mais qu'on ne mettra pas dans le guide, parce que souvent, faut y aller pour une raison en particulier. Ça peut être une brochette, ça peut être un beignet, ça peut être... Mais c'est pas suffisant pour recommander l'intégralité du restaurant.
Allez, les 12h26 sur France Culture, on poursuit et on enchaîne et on termine cette émission avec la cerise sur le gâteau. Et Et donc, mon cher Pierre, vous revenez sur le repas gastronomique des Français.
Oui, je profite des interrogations soulevées par nos invités pour rappeler à nos auditeurs une date importante pour notre patrimoine culinaire, le 16 novembre 2010. Et oui, c'est ce jour-là que Nicolas Sarkozy, alors président de la République, annonçait que le repas gastronomique des Français venait d'être inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Alors, arrêtons-nous un instant sur les termes de cette révolution. D'un côté, repas gastronomique des Français, et de l'autre, patrimoine immatériel de l'humanité. Pour ce qui est du repas gastronomique, à bien lire le texte de l'honorable institution onusienne, on constate que celle-ci n'a pas classé la gastronomie dans son acception populaire, où elle représente la cuisine haut de gamme, élaborée par des chefs élevés au rang d'artistes ou de rockstars, mais bien la mise en discours de règles, de lois du manger et du boire, du grec nomos, qui convergent vers l'estomac, le gaster. C'est l'étymologie même du mot gastronomie. Ce que les sages onusiens ont eu à débattre n'était donc ni les plats, ni la nourriture, mais la pratique sociale. Dans le dossier de présentation, la France soulignait d'ailleurs que cette pratique avait un sens et des rituels bien précis de, je cite, « la recherche de bons produits à l'esthétisme de la table » et également, tenez-vous bien, « aux conversations ». Notre repas serait même, toujours selon le même document, une occasion de s'ouvrir à la connaissance de l'autre, au dialogue interculturel, à l'amitié entre les peuples. Et tout ça ferait donc patrimoine immatériel. Waouh ! Rien que ça ! Donc, on se résume. Sans ce classement, s'agissant de gastronomie, on pourrait s'intéresser aux arts de la table et aux ustensiles, aux contenants, bref, à du matériel physiquement archivable. Mais grâce à Sarkozy et à l'UNESCO, on se doit désormais d'archiver également les discours sur le contenu des assiettes et les pratiques sociales qui vont avec, par nature, éphémère et évolutif, comme nos invités viennent parfaitement de nous le démontrer. Et si nous comprenons tous que le nombre de conservateurs de musées qui prennent soin de notre patrimoine de vaisselle de Sèvres ou de centaines de menus magnifiquement archivés, je vous le signale, à la bibliothèque de Dijon, plus complexe est de déterminer quels sont les gardiens de notre patrimoine immatériel. Et là, je ne résiste pas à citer le célèbre aphorisme de René Char. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Ainsi, ce classement patrimonial ne peut entraîner que deux logiques, la sauvegarde et la conservation. La première fait appel à l'incessante revitalisation et hybridation du nouveau avec l'ancien, on vient de le voir, quand la seconde implique la préservation de témoignages fixés dans le temps. Alors dans ces conditions, je dirais, ami du fooding comme archiviste des bonnes choses de France Culture, ami chef comme cuisinières et cuisiniers amateurs du quotidien, ami artisans et paysans, ayez bien conscience que le classement de l'UNESCO nous oblige et que les discours et récits que les Français attachent à leurs nombreuses heures passées à table est un bien désormais universel pour lequel nous devons tous faire acte de conservation.
Voilà qui est dit et bien dit. Merci beaucoup Pierre Hiverna et merci à nos deux invités, Éric Birloué, sociologue de l'alimentation, et Alexandre Cama. Je rappelle que le fooding est encore en kiosque, bien entendu, et en librairie, 2020, année anti-fooding, point d'interrogation. C'est la fin des bonnes choses. Les bonnes choses se poursuivent en réécouter en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Roxane Poulain, Mathéo Caranta, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Jean-Guilain Meige, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.